Tout commence à la préhistoire sur le rocher des Dons, un promontoire à l'abri des eaux du Rhône, fleuve impétueux. Cette colline, où trône maintenant la cathédrale Notre-Dame des Dons, protège le palais des papes du Rhône et du Mistral. Le nom d'Avignon vient de l'Antiquité sous la gouvernance des Cavards. Aueño, ville du vent violent ou seigneur du fleuve, sont les traductions les plus probables. En 121 avant Jésus-Christ, les Romains s'emparent d'Avignon, à Aueño, et la nomment Avenio. Au croisement des grandes routes commerciales et migratoires entre Europe du Nord et du Sud et entre l'Italie et l'Espagne, la cité joua un rôle majeur dans l'histoire européenne. À la fin du IIIe siècle, les barbares chassent les Romains, ravagent la ville et y demeurent jusqu'en 561. Après la défaite de Poitiers, 732, les Arabes firent d'Avignon un point stratégique. Charles Martel, en 737, libéra la ville de ses occupants. C'est le Moyen-Âge qui donne toute sa magnificence à la ville par la majesté de ses monuments. Au XIIe siècle, les évêques donnent la puissance religieuse à leur cité par la construction d'une nouvelle cathédrale et de son cloître sur le rocher. L'art roman provençal, gracieuse imitation de l'architecture antique, façonne les bâtiments religieux. Le pont Saint-Bénézé, édifié entre 1177 et 1185, ainsi appelé aujourd'hui du nom du petit pâtre légendaire, fut le premier pont construit en pierre qui franchissait le Rhône depuis la mer. Avignon devint une ville de commerce et de passage des pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome. Pour sauvegarder ses richesses et assurer sa sécurité, la ville double ses remparts. Le XIIIe siècle fut une période troublée car Avignon, qui était vassal du comte de Toulouse, favorable aux Cathares, Louis XIII, roi de France, assiège la ville et affaiblit ses défenses par une destruction partielle de son enceinte et du pont. Avignon passe ensuite sous la tutelle de Charles II d'Anjou, comte de Provence et roi de Naples. Le destin d'Avignon bascule début du XIVe siècle avec l'entrée solennelle du pape bordelais Clément V et de ses cardinaux dans la ville en mars 1309. Cet événement ouvre une période prestigieuse qui verra se succéder, durant près d'un siècle, 7 papes français et 2 antipapes. Le pape cistercien Benoît XII matérialisera l'attente de la papauté en Avignon par l'édification d'un palais résidentiel. Le prestige et le faste de la papauté avignonnaise atteint son apogée sous le brillant pontificat de Clément VI par l'adjonction d'un nouveau palais gothique et par l'achat de la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence, de la ville d'Avignon pour 80 000 florins d'or. Outre le palais des papes, 25 palais de cardinaux, 7 nouvelles églises, des monastères pour les ordres mendiants traduisent la postérité et le faste de la cité protégée par de nouveaux remparts. Capitale de la chrétienté, aussi bien spirituelle que politique, économique et culturelle, elle devient une des villes les plus peuplées de l'Occident médiéval. Après le départ de la papauté, Avignon est gouvernée par des légats nommés par le pape, puis par des vice-légats. Capitale d'un petit état peu à peu enclavé en terre étrangère, elle joue un rôle comparable aux principautés actuelles. Elle bénéficie ainsi d'une grande activité industrielle et financière. Cette prospérité profite au monde intellectuel et artistique. Sur l'élan donné par le mécénat des souverains pontifes, école de peinture italienne, française, se développe au XVe et XVIe siècle la célèbre école d'Avignon, qui verra naître des chefs-d'œuvre comme la Pietà au musée du Louvre d'Enguerrand Carton. Au XVIIe et XVIIIe siècle, Avignon profite de sa position d'enclave dans le royaume pour développer une économie florissante avec l'industrie de la soie et du coton, les fameuses indiennes. C'est alors que les vieilles habitations de bois laissent place aux belles façades sculptées des hôtels particuliers qui s'alignent le long des nouvelles rues de la ville. Au XIXe siècle, Avignon devient un centre administratif essentiellement dédié aux productions agricoles, Garance et Verrassoie, Elle devient capitale culturelle par la volonté de quelques hommes, les Fées Libres, qui en font le centre de la Renaissance provençale. Théodore Aubanel, Joseph Roumanille, et surtout Frédéric Mistral, dont l'œuvre a été couronnée par un prix Nobel de la littérature en 1904, ont permis à la langue et à la Provence de rayonner dans le monde entier.